Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un fil à la patte aura été le grand succès de cette année à la Comédie Française, tandis que rien qu'à Paris, trois autres salles affichent des pièces de Feydeau. Et Franck Ferrand a donc choisi aujourd'hui sur Europe 1 de nous parler de l'homme qui se cache derrière ce succès qui n'en finit pas. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Tout le monde connaît le nom de Georges Feydeau, mais qui peut se vanter de bien connaître l'homme? Notre invité, certes, qui est le grand biographe de Feydeau, qui d'ailleurs a levé la main au moment où j'ai posé la question. Et d'ici quelques minutes, on peut dire d'ici une petite heure.
Oui.
Vous qui nous écoutez, vous ferez aussi partie des connaisseurs de Feydeau. Je fais le pari que vous aurez appris bien des choses sur l'auteur de Tailleur pour dames, Monsieur Chasse, l'hôtel du libre-échange, la dame de chez Maxime, la puce à l'oreille, on purge bébé, etc. Autant de machines à rire, bâties et remontées comme des mécaniques très précises, mais qui nous cachent généralement leur concepteur.
Alors vous savez que vos réactions et vos questions sont les bienvenues dans cette émission. Envoyez-les-nous par internet. Le moment est donc venu de frapper les trois coups.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est un souvenir de jeunesse très fort pour moi, très marquant. J'allais au théâtre à Paris pour la première fois, c'était en 1985, et l'on donnait, 90 ans après, Le Dindon de Georges Feydeau, dans le théâtre même où la pièce avait été créée, au Palais Royal, sous les figures sculptées, sous les ors un peu fanés, et au milieu des velours tout à fait belle époque de cette salle mythique. C'est la distribution, je vous dis tout de suite, qui m'avait attiré. Robert Lamoureux, Pierre Mondy, Yolande Folliot, Claude Jansac, Pierre Tornade, Corinne Le Poulain, Jean-Luc Moreau et quelques autres, tous emportés dans ce tourbillon qui, dès le premier acte, avait conquis la salle. Au deuxième acte, vous savez, c'est le moment où il y a ce décor de chambre d'hôtel avec la fameuse alcôve et le lit équipé d'une sonnerie. Les quiproquos en cascade, les coups de théâtre ahurissants provoqués par les mensonges de personnages évoluant au bord du précipice jusque dans une sorte de délire absurde. Tout ça soulevait littéralement la salle de rire et pour la première fois, j'ai vu ce que c'était qu'un public s'étouffant, pouffant, octant de rire. Les gens qui se tiennent les côtes, vous savez, qui se massent les joues, ils se soulèvent de leur siège à chaque entrée comique. Et j'ai cru sincèrement ce soir-là avoir assisté à un moment tout à fait unique et qui ne pouvait pas se reproduire. Or, 26 ans plus tard, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'autres pièces de Feydeau. Et souvent, sinon toujours, j'ai pu constater que la même magie opérait. Cette espèce de folie qui s'empare des acteurs, cette hilarité qui secoue la salle au rythme des situations, des répliques, et pourtant des situations et des répliques qui sont quand même celles de la belle époque. Non seulement les décors, les costumes, les expressions, les attitudes, tout ça est clairement daté, mais les situations elles-mêmes ne sont comiques que par rapport à des conventions qui sont les conventions de la bourgeoisie 1900, et qui donc a priori ne devrait faire rire que les gens de l'époque. Eh bien, pas du tout. Tout ça a beaucoup évolué et néanmoins, l'effet reste le même. Le miracle Feydeau s'accomplit presque à chaque représentation. Il y a là, on peut dire, quelque chose d'universel, de très puissant. Est-ce que vous imaginez depuis un bon siècle, en comptant toutes les reprises, toutes les traductions dans le monde entier, les tournées, toutes les diffusions télé avec des milliers de mises en scène, des centaines de milliers de représentations, est-ce que vous imaginez ces millions, peut-être même ces milliards de spectateurs qui se sont esclaffés, gondolés, tordus de rire à la merci de Georges Feydeau? On peut dire que ça donne le vertige. On fait dans le bruitage aujourd'hui.
Oui, quelle production.
Au début du siècle dernier, si vous vouliez avoir une chance de croiser Georges Feydeau, il vous suffisait d'aller traîner rue Royale, vous savez, tout près de la place de la Concorde, du côté de chez Maxim's, dont il avait fait sa cantine. C'est Cocteau qui nous le raconte. Lorsque j'étais très jeune et que je rentrais chez moi, écrit Jean Cocteau, il m'arrivait de m'arrêter à la terrasse de Maxim's où m'attirait un homme étrange. C'était Feydeau. Considérable, le col du par-dessus relevé, le melon basculé sur une toute petite figure, les yeux mi-clos jusqu'à n'être plus que des fentes, la moustache fine, il soulevait d'une main molle jusqu'à sa bouche sinueuse un cigare énorme. Le restaurant Maxime était depuis longtemps le port d'attache de Georges Feydeau, qui du reste en a fait le décor du deuxième acte d'une de ses pièces, quasiment jamais jouée parce que très coûteuse à monter, La Duchesse des Folies Bergères. Dans sa belle biographie de Feydeau, Henri Gilidel nous raconte justement ce décor. Ce qu'aime particulièrement le public, écrit-il, c'est le deuxième acte, car il a pour cadre le restaurant Maxim's, au décor moderne style, aux lumières éclatantes, aux fresques suggestives, aux glaces baroques, comme l'évoque Feydeau dans la notice qui précède l'acte. Le directeur du théâtre avait bien fait les choses d'ailleurs. De 80 à 100 personnes, acteurs et figurants, évoluaient sur la scène des nouveautés, pourtant exiguë, et dans une loggia reproduisant celle du Maxim's, des musiciens tziganes jouaient les valses à la mode. La Duchesse, ajoute Henri Gidel, comporte une peinture très réaliste d'une faune hétéroclite, celle des noctambules parisiens. Nos sœurs décavées, cherchant à taper un ami de manière à prolonger leur existence oisive, cocottes à l'affût du millionnaire en franc or, policiers des mœurs habillés en bourgeois qui surveillent tout ce monde interlope, garçons, maîtres d'hôtel et jusqu'au directeur de l'établissement qui apparaît ici sous son vrai prénom, sans oublier les diplomates vrais ou faux, les noceurs d'occasion qui viennent envahir la salle en compagnie de cette duchesse d'une noblesse si récente qu'est la môme crevette. Ah ah ah, la môme crevette. Ce tableau impitoyable, grouillant de vie, très cinématographique, très félinien avant la lettre, nous dit Henri Gidel, et d'autant plus véridique qu'il émane, on l'a vu, de l'expérience personnelle de l'auteur, de sa table chez Maxim's, postée derrière les nuages développés par son énorme havane. Il observe d'autant plus qu'il parle moins. Sa vision est parfaitement lucide, car sa sobriété est intégrale. Il s'est entendu avec le directeur, la bouteille de Dom Pérignon qu'on lui apporte est factice. Elle ne contient que de l'eau gazeuse, légèrement colorée. Mais il en fait commander d'autres, de vraies, celles-là, lorsqu'il reçoit ses amis, qui ne partagent pas tous ses goûts spartiates. Quand son dîner s'achève, Georges Feydeau ne se hâte pas de rentrer se coucher. On le voit volontiers à la taverne chez Hans, chez Paul, au Critérion, à la Calisaya, au Capitole, voire dans d'obscurs bistrots des Halles, de Vaugirard, parfois même de la Villette. L'auteur n'est pas pressé de rentrer chez lui. Il faut dire que depuis septembre 1909 et sa séparation d'avec Marianne, sa femme, il n'en a plus vraiment de chez lui. Il vit à l'année dans un grand hôtel du quartier de la gare Saint-Lazare, le Terminus, dont il s'était justement inspiré pour ce fameux deuxième acte du Dindon, la pièce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est à l'époque, le Terminus, c'est le palace le plus moderne de Paris, truffé d'ascenseurs avec des cafés et des brasseries intégrées, et Feydeau y occupe l'appartement 189. Alors avec surprise, j'ai appris en préparant cette émission qu'à l'époque, Georges Feydeau, qui toute sa vie a été un donjouan, un pénitent trousseur de jupons, s'était reconverti et qu'une fois installé au Terminus, il préférait la chasse aux jeunes liftiers et aux garçons d'étage. Ça fait partie des mystères d'un homme très difficile à cerner finalement, ambigu, ambivalent, ambidextre peut-être sur le plan des mœurs. Marcel Achard, qui à l'époque était jeune journaliste, décrira le Capharnaüm régnant dans cette suite 189 à l'époque de la Grande Guerre. Je cite à nouveau la biographie d'Henri Gidel. Sur les tables, nous dit-il, s'étale une collection de petits pots en faïence, mais aussi les 250 flacons de sa collection de parfums. Des toiles, encadrées ou non, de peintres modernes, des impressionnistes jusqu'à Utrillo. Outre les pots de faïence, les flacons de parfums et les toiles, il y a sur les tables des piles de livres en équilibre précaire et par terre, encore d'autres piles de livres. On marche sur les livres, c'est un mur de livres. Les meubles, y compris le bureau, en sont tellement couverts que pour écrire, Georges doit se servir d'une planche à dessiner qu'il dispose par-dessus les volumes, mais il doit alors, pour être à niveau, exhausser sa chaise avec des dictionnaires. Dans un coin, sous une lampe, brille une armure qui aurait pu appartenir au chevalier Bayard. Achard demande à Feydeau si la jeune génération lui semble supérieure ou inférieure à celle qui l'a précédée. Il répond « La jeune génération est très inférieure à la nôtre, parbleu !» Puis il ajoute avec son drôle de sourire « Tout de même, si je pouvais en faire partie !» À cette époque, et ça n'est pas encore à mettre sur le compte des dérangements mentaux que la syphilis fera bientôt subir à Georges Feydeau, à cette époque l'auteur raconte à qui veut l'entendre qu'il est en vérité un fils naturel de Napoléon III. Est-ce que c'est sa mère qui lui aurait révélé ce secret de famille? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Et le plus étonnant, c'est que la chose paraît plausible. Qui était la mère, l'extravagante mère de Georges Feydeau? Dans quel milieu a-t-il passé son enfance? Comment est-il tombé tout jeune dans le chaudron du théâtre? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Ces pièces sont des classiques du théâtre comique, mais qui est véritablement Georges Feydeau? C'est ce que nous révèle le récit d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Alors justement, Julia, je vous avais promis de lever le voile sur le premier personnage déterminant de la drôle d'existence de Georges Feydeau. J'ai bien dit drôle d'existence, pas forcément une existence très drôle, nous allons le voir, c'est un paradoxe. Sa mère, la ravissante Leocadie Zalewska, une jeune juive polonaise âgée de 21 ans quand elle croise à une soirée chez le vicomte de Calonne, qui est le directeur de la revue contemporaine, un veuf d'une quarantaine d'années. Cette mère, donc, est un personnage extraordinaire. Alors le bonhomme qu'elle croise, c'est un certain Ernest Feydeau, évidemment, qui est courtier en bourse, du reste assez riche. Il a fait, comme tous ces gens, on est à cette époque du Second Empire où les fortunes en bourse, je vous renvoie à Zola, hein, évidemment, peuvent être assez brillantes et rapides. Un homme qui, par ailleurs, se pique d'être un auteur de fresques réalistes, à la Zola, précisément. Ernest Feydeau a connu un grand succès 3 ans plus tôt avec son roman « Fanny ». La réputation de la très belle Leocadie est des plus douteuses, en tout cas aux yeux d'une certaine bonne société. Pour les gens bien, elle est au mieux, on va dire, une femme galante. Et dans la mesure où l'on sait qu'elle a été la maîtresse du duc de Morny, donc le demi-frère de l'empereur, rien n'empêche a priori qu'elle ait pu avoir effectivement un enfant naturel avec Napoléon III. Mais rien ne le prouve non plus. En tout cas, lorsqu'il l'a épousée en janvier 1861, Ernest Feydeau s'est exposé aux pires médisances, surtout que les mauvaises langues ne manquent pas autour de lui, à commencer par les frères Goncourt, qui l'épinglent à longueur de page dans leur célèbre journal. Voici par exemple ce que nous disent les Goncourt de l'appartement occupé par le nouveau couple face au parc Monceau. C'est à la fois un appartement de grandes courtisanes et de grands faiseurs, écrivent-ils, ce qui est terrible. Quelque chose de riche et de louche, qui, du lit de la femme au cabinet de l'homme, sent l'argent des autres. Un appartement de filles et d'artistes, un luxe de bibelots malsains, une artisterie de boursiers, pour ainsi dire, avec je ne sais quoi qui sonne faux et semble louche, qui sent l'homme putain. Sur un meuble de boule tout cramoisi, les livres de Ernest Feydeau remontés en grands in-quarto comme pour se grandir par le format. Que de talent et que de méchanceté bon dans ces lignes. Exécuté. On imagine en tout cas assez bien ce cadre dans lequel sont élevés les deux enfants d'Ernest et Leocadia Feydeau. Donc Georges, qui naît en 1862, et puis sa petite sœur Diane Valentine, qui plus tard, vous savez, va devenir la grande amie de Colette. Une petite sœur dont Georges fait d'emblée son souffre-douleur. Il faut vous dire que c'est un enfant qui certes est très beau, mais insupportable, désobéissant, pénible, presque violent. De nouveau les Goncourt. Toujours plus beau le petit Feydeau, les cheveux encore plus blonds et plus frisants de boucles d'or, habillé de soie violette, trépignant, criant, faisant rouler sur le pavé de marbre le bruit agaçant d'un cheval de bois et, à notre demande des nouvelles de son père, le délicieux petit ange nous dit avec l'énorme sang-cœur d'un enfant terrible « Papa, ah papa, il est très malade, il est très malade » et aussitôt il recommence à secouer son cheval. Il faut dire qu'en effet, Ernest Feydeau, aux prises avec de multiples difficultés et même une campagne de presse, a été frappé d'une attaque qui l'a rendu hémiplégique. Du reste, il ne tardera pas à mourir à l'automne 1873. À ce moment-là, Georges a donc 11 ans. Et c'est toujours Goncourt. Alors cette fois, Edmond Goncourt, car son frère Jules, maintenant, est mort. C'est lui qui nous raconte les obsèques. On est donc le vendredi 31 octobre 1873, de ma vie, écrit Edmond Goncourt, je n'ai vu quelque chose de comparable à la beauté et à l'insensibilité de l'enfant de Feydeau derrière le cercueil de son père. Pas une larme n'a mouillé ses yeux de femme, et le petit être si joli et si sec, coquetant avec le bouquet de violettes de la bière, me semblait dans sa grâce cruelle comme la vivante allégorie d'un cœur de courtisane. Bien certainement, cet enfant a été conçu pendant l'élaboration d'une carotte, une carotte, c'est-à-dire une ruse, de sa charmante mère. Une charmante mère qui ne va pas tarder à se remarier avec un soupirant qui se languissait depuis pas mal de temps déjà, Henri Fouquier, un journaliste libéral de Marseille à la barbe blonde. Alors, comment est-ce que Georges a vécu, au fond, comment est-ce qu'il a réellement perçu la mort de ce père, le remariage de cette mère? Son niveau médiocre, et c'est le moins qu'on puisse dire, au lycée Saint-Louis, où il est à l'époque interne, doit-il quelque chose à des souffrances rentrées, cachées, enfouies en lui? En vérité, rien n'est moins sûr. La seule chose qu'on puisse affirmer, c'est que depuis toujours, il a été marqué, enfin depuis toujours, en tout cas depuis qu'il a assisté à une représentation théâtrale, il ne s'intéresse plus de près ou de loin qu'à l'art dramatique. Il écrit sur son cahier de drame l'ébauche de ce qui plus tard deviendra un morceau majeur du répertoire. Il n'avait pas loin de 7 ans, nous dit Henri Gidel. Jusque-là, c'était Marie, une jeune gouvernante d'origine allemande, qui lui servait d'institutrice particulière et tentait de lui enseigner à lire, à écrire et à compter. Mais cet enfant terrible était d'une nature particulièrement indocile. Il préférait frapper sa sœur Valentine que les Goncourt nous montrent l'œil tout noir d'un pochon reçu de son frère. Cependant, un soir, Marie le conduisit au théâtre. Ce fut le coup de foudre, comme il le raconta plus tard. « Que jouait-on ? Je l'ai oublié, mais je revins enthousiasmé, j'étais touché. » Le mal venait d'entrer en moi. Le lendemain, poursuit Georges Feydeau, car c'est lui qui nous raconte l'anecdote, après n'en avoir pas dormi de la nuit, dès l'aube, je me mis au travail. Mon père me surprit, tirant la langue et, d'une main fiévreuse, décrépant mes cheveux emmêlés par l'insomnie, j'écrivais une pièce, tout simplement. « Que fais-tu là ? » me dit mon père. « Une pièce de théâtre, » répondis-je avec résolution. Quelques heures plus tard, comme l'institutrice chargée de m'inculquer les premiers éléments de toutes sciences en usage, une bien bonne demoiselle, mais combien ennuyeuse, venait me chercher. « Allons, monsieur Georges, il est temps. » Mon père intervint. « Laissez Georges, dit-il doucement, il a travaillé ce matin. »«
Il a fait une pièce, laissez-le. »
En vérité, laissez-le, des pièces Georges Feydeau en fera bien d'autres. La première, Par la fenêtre, est jouée dès 1882, il a seulement 19 ans. Son premier succès viendra 4 ans plus tard, avec d'ailleurs pour dame, évidemment, au Théâtre de la Renaissance. Une pièce encore dans l'esprit de ces pièces du Second Empire, vous savez, dans la verve de la biche, qui lui vaut du reste les encouragements du grand dramaturge. Mais c'est après son mariage avec Marianne que viendront les grands succès, Monsieur Chasse, Champignol malgré lui, Le Système Ribadier, en attendant les triomphes comme Le Dindon, La Dame de chez Maxime, La Puce à l'oreille, etc. Ce mariage, le 14 octobre 1889, fait entrer Georges Feydeau dans un univers qu'il apprécie plus que tout, celui de la peinture. Et ça, c'est une affaire sur laquelle revient amplement Henri Gidel, il a raison. En effet, Georges Feydeau sera non seulement un très grand collectionneur, avec peut-être quelque chose d'un peu compulsif, comme souvent les collectionneurs, mais aussi un peintre du dimanche, à la fois conscient de ses limites, certes, mais très heureux, béat de peindre. On peut dire que ce sera son vrai plaisir. Eh bien, qui épouse-t-il, cet amoureux de la peinture? Il épouse la fille d'un des plus grands, des plus célèbres peintres de son temps, la gloire de la peinture française du temps, qui était Carolus Duran. C'est d'ailleurs un portrait de Feydeau par Carolus Duran, qui orne la biographie, dans la série donc Grande Biographie chez Flammarion, que Gidel consacre à Feydeau. Henri Gidel est avec nous dans ce studio, et dans un instant, nous allons pouvoir prendre à bras le corps, si je puis dire, cette œuvre extraordinaire, cette œuvre composée de quelques-unes des plus grandes œuvres comiques de tout notre répertoire.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck, pas de quiproquo, de coup de théâtre sur Europe 1. Nous vous retrouvenons, comme convenu, avec Henri Gidel.
Ni de porte qui claque, ou d'escalier qu'on dévale, enfin, etc. Vous connaissez cet univers mécanique, criant et surtout riant des pièces de Feydeau. Merci beaucoup, Henri Gidel, d'être des nôtres. Et merci beaucoup d'avoir ressuscité non seulement Feydeau du reste, mais un certain nombre des gloires de notre théâtre populaire, du boulevard, du vaudeville. Je pense évidemment aux deux Guitry, qui ont fait également l'objet chez vous d'une très belle biographie croisée. Georges Feydeau, aujourd'hui, est plus présent que jamais. On a finalement quasiment jamais été en joué. C'est incroyable. On a l'impression qu'il ne veut pas du tout décrocher de l'affiche. Et ça continue à faire rire les gens. Moi, c'est ce qui me fascine.
Oui, ce que vous dites est juste. Mais je crois que ces propos que vous venez de tenir, et il est assez amusant de constater que je les ai entendus déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et chaque fois, on dit jamais on a autant joué Fedot. Donc, vous voyez, je crois qu'on le joue pas. On le jouait déjà énormément. Et contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a jamais eu de purgatoire Fedot, même après sa mort et jusque.
Il meurt en 1921.
Certains ont dit c'est vrai, on ne l'estimait pas, mais on le jouait quand même beaucoup en province, à Paris aussi, mais on considérait que c'était un auteur absolument.
On le traduit aussi, c'est incroyable, il est joué dans le monde entier.
Il était traduit dans un grand nombre de langues. Songez que, par exemple, en anglais, il y a deux traductions de Fedot, rien qu'en anglais, vous voyez. Et d'autre part, il y a pas mal d'universités américaines qui ont fait des thèses sur Fedot.
D'invitation à la valse signée Karl Maria von Weber sur Europe 1.
Avec ce rythme enlevé qui correspond assez bien, je trouve, aux pièces de Fedot qu'on doit jouer sur un rythme toujours trépidant. Alors, nous allons parler longuement pendant toute la deuxième partie de cette émission du théâtre de Georges Fedot. Comment se construisaient ces pièces avec l'histoire parfois assez extraordinaire et même rocambolesque de l'écriture de certaines d'entre elles. Vous savez qu'il lui arrivait d'écrire un acte, puis deux, et de tout laisser en plan. Les comédiens se réunissaient, commençaient à répéter, et le troisième acte n'était toujours pas écrit, ce qui empêchait de dormir les directeurs de théâtre, vous imaginez bien, notamment le pauvre Michaud, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Tout ça avec Henri Gidel dans la deuxième partie. Mais ce que j'aimerais qu'on dise là, dans les quelques minutes qui nous restent avant le flash de 14h, c'est à quel point Fedot aimait la peinture. Et on a ce très beau portrait de son beau-père, enfin de Fedot par son beau-père sur la couverture de votre biographie, Henri Gidel. En fait, c'était sa passion. Vous êtes d'ailleurs, vous, venu avec le catalogue d'une vente des œuvres qui faisaient partie de sa collection.
C'est cela. Oui, comment est-il venu à la peinture? C'est-à-dire qu'il s'y intéressait déjà beaucoup. Et alors, il a pris des leçons de peinture chez son futur beau-père, chez Carolus Durand, qui avait un atelier à Montparnasse, rue Jules Chaplin, il y a encore une plaque. Hein. Mm-hmm. Et c'est là qu'il prenait le saut de peinture auprès de Carolus Durand, qui était à l'époque un des plus grands peintres.
Le grand portraitiste de l'époque. Il fallait passer par l'atelier de Carolus Durand.
Bon. Si on ne faisait pas partie du tout Paris, si on n'avait pas eu au moins son portrait par Carolus Durand, sinon c'était rien. Alors il faisait payer des sommes absolument monstrueuses. Mais on
imagine
l'équivalent
de millions d'euros aujourd'hui, vous dites.
Absolument, hein, absolument, oui. Mais alors là, c'était la consécration.
Il y a d'ailleurs un très grand portrait, enfin un grand tableau de famille que vous décrivez, peu dans l'esprit de Velázquez, qui était, dit-on, le modèle, le maître à travers les siècles de Carolus Durand, qui représente l'ensemble de la famille du peintre lui-même. Et on voit, évidemment, à l'extrême droite de ce tableau, on aperçoit, je dis bien on aperçoit parce qu'il est presque moins visible que les autres, le gendre impossible, le Georges Fedot.
Oui, et il semble absent, il semble distrait. Je crois qu'il est dans son monde. Il est dans son monde. Je crois d'ailleurs que pour devenir Fedot, il faut bien avoir un monde particulier, un univers spécial.
Oui, vous décrivez très bien la façon dont il s'inspirait du reste. Il prenait comme ça, à droite et à gauche, des modèles, et puis il laisse mûrir les pièces pendant des mois, parfois pendant des années, et au moment de l'écrire, alors là quand même, il s'isole.
Là, il va très vite.
Et c'est là qu'il se plaint d'entendre les cris aériens de sa marmaille. Alors on viendra à tout ça tout à l'heure. Juste un mot sur Fedot, peintre, car lui-même a peint aussi.
Ah oui, alors justement, il disait je fais de très mauvaises peintures, mais peu importe, il éprouvait une jouissance particulière à peindre. Et il
sur la Côte d'Azur notamment. Hein,
et notamment sur la Côte d'Azur, parce qu'il allait dans une propriété appartenant à son beau-père, qui se trouvait à Saint-Égulfe. Mm-hmm. Alors il en a profité pour faire pas mal de paysages marins de cette région.
C'est un sublime endroit, surtout à l'époque.
J'ai vu quelques-uns des magnifique tableau de Feydeau chez le regretté Alain Feydeau, son petit-fils, qui est malheureusement qui a disparu il y a, je crois, quelque chose comme 2 ans.
Oui, en 2008, oui.
Voilà, et qui 3 ans et qui repose au cimetière Montmartre, le cimetière
à côté de
des
son
artistes.
Grand-père,
oui, dans la même tombe. Et alors,
ça ressemble à quoi ces tableaux?
Ah, eh bien, ce tableau, c'est un caractère relativement banal, mais enfin, c'est une peinture très honnête. Mais il sait très bien qu'il fait une peinture médiocre, il le dit lui-même, il n'a aucune prétention de ce côté-là.
Georges Feydeau fait une peinture médiocre lorsqu'il a un pinceau dans les mains. En revanche, lorsqu'il s'agit de peindre et de dépeindre, et d'être parfois très mordant envers les travers de ses contemporains, alors là, la peinture est très haute en couleur.
Ah oui, c'est
le moins qu'on puisse dire, c'est que les figures qu'il a croquées sont définitivement immortelles. On parlait tout à l'heure de la môme crevette, il y en a un certain nombre d'autres. Nous allons venir avec tous ces personnages, ces intrigues, ces rebondissements, juste après le flash de 14h.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Feydeau aux éditions Flammarion est le titre de la biographie signée par notre invité sur Europe 1, l'historien du théâtre Henri Gidel, Franck.
Henri Gidel qui montre très bien à quel point Feydeau s'est lancé dans cette écriture, mais vraiment dans l'enfance. C'était sa façon à lui d'échapper aux devoirs, parfois, ou aux punitions paternelles, hein, du reste.
Mais absolument. Mais c'était pas uniquement pour cela, bien sûr. Et alors, je raconte dans mon livre, c'est une note assez amusante, il avait imaginé déjà des intrigues qui montrait en lui le futur vaudevilliste. Il imagine une intrigue médiévale qui est assez amusante. Il y a un seigneur qui part pour la croisade, mais il a oublié je ne sais quel élément de son armure. Il revient et il trouve sa femme couchée avec son page. Alors, on pourrait croire qu'avec sa hallebarde ou son glaive, il va zigouiller sa femme et l'amant de sa femme, mais pas du tout. Il prend les choses très bien. Il prend d'un côté, il prend par la taille sa femme d'un côté, le page de l'autre, et il dit, je reste, comme ça, nous serons heureux tous les trois. Et c'est un gamin de 8 ans qui imagine une intrigue pareille. C'est quand même effarant, ça. Tout
mais
même.
Il a, ça ne peut même pas s'expliquer, ça. On peut dire qu'il a le génie de l'intrigue.
Oui, il C'est-à-dire a le génie, que, puis tout de suite.
Hein. Il dit lui-même, parce qu'il a donné des interviews longues et passionnantes, où il décrit la façon dont il travaille, il dit lui-même que c'est presque une déformation d'esprit chez lui, et qu'il n'y prend pas toujours un grand plaisir, contrairement à la peinture dont on parlait tout à l'heure. Oui. Finalement, créer des intrigues, c'est plutôt du travail, voire du labeur pour
ça
lui,
l'embête,
en fait.
Hein. Ça l'embête. Il dit, je travaille comme un chimiste, voilà. Je pèse les procédés dans un laboratoire. Et puis alors, ça l'embête tellement que finalement, qu'il a de la peine, comme vous disiez tout à l'heure très justement, à finir ses pièces. Mais comme il doit signaler aussi qu'il a beaucoup d'esprit, je cite abondamment ses traits d'esprit.
Oui, alors on connaît certains de ses traits d'esprit. Amusant, par exemple, d'une dame dont on dit que son petit garçon est toujours dans ses jupes, il dit « Oh, qu'il y reste, il y fera de belles rencontres ». On dit d'une autre qu'elle respire la vertu, il dit oui, mais elle s'essouffle vite.
Oui, c'est assez drôle.
Quelle formule.
Oui, oui. Et alors, par exemple, un directeur de théâtre qui est épouvanté parce que les deux premiers actes sont en répétition, le troisième n'existe pas, il lui dit, patience, je termine le deuxième entr'acte.
et ces mots d'auteur, évidemment, émaillent les pièces, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas ce qui reste. Vous avez d'ailleurs fait une sorte d'anthologie des mots d'auteur de la puce à l'oreille, je crois.
Je crois
c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que c'est quand même émaillé de très beaux mots, d'esprit, etc. Or, quand on sort de la représentation, ce qu'on a retenu, ce sont des situations incroyables, des personnages qui s'enferrent dans des mensonges de plus en plus intenables, des rencontres qu'ils ne doivent absolument pas avoir lieu et qui, bien entendu, ont lieu toutes les 5 minutes. Enfin, et ce sont des cascades de situations. C'est-à-dire qu'on est à peine remis d'une grosse crise de rire qu'une autre arrive encore plus forte.
C'est ça.
C'est presque que Massin. On dit d'ailleurs, on dit qu'à une représentation du Dindon, je ne sais plus laquelle, la 5e ou 6e représentation, il y a un monsieur qui serait mort d'une crise cardiaque. Mort de rire.
Oui, absolument. C'était déjà arrivé d'ailleurs pour celui qu'admirait beaucoup Feydeau, c'est-à-dire Eugène Labiche.
Oui, bien sûr.
On citait déjà au cours d'une de ses pièces un homme qui était mort de rire également. Vous voyez, ce sont les deux auteurs assassins.
Avec constamment l'absurde qui est là, présent. On a l'impression parfois que le réalisme se perd un peu dans des situations de plus en plus dépourvues de sens, et peut-être quelque chose d'assez ambigu derrière, voire d'un peu tragique. On peut dire, et d'ailleurs ça a été dit, que Feydeau écrivait ses comédies comme des tragédies, dans le sens où elles sont quasiment mathématiques en fait, et inéluctables.
C'est ça, il y a une espèce de fatalité comique. Ces personnages se trouvent pris dans une espèce de déterminisme, ils ne peuvent pas faire autrement, et ils subissent cette espèce d'enchaînement qui les mène à la catastrophe.
Alors, cette écriture dramatique, elle vient très tôt, mais évidemment, les premières pièces de Feydeau ne sont pas forcément des grands succès. C'est le moins
qu'on puisse dire. Non, il a mis un certain temps, n'exagérons rien. Mais enfin, il a écrit pas mal de pièces.
Il a un collaborateur pendant longtemps, quand même, il faut le dire
aussi.
Oui,
mais ça se faisait.
Oui, bien sûr, mais ça n'est pas une critique, mais il faut le dire.
Ça n'est pas exceptionnel. Il y a même, que je crois, une thèse a été écrite, des livres ont été écrits sur la collaboration au théâtre, et c'était absolument courant. Si vous regardez par exemple les œuvres de Labiche, presque toutes sont écrites avec quelqu'un, et même quelquefois avec deux personnes, et même quelquefois au cours du 19e, il y avait des vaudevilles qui étaient écrits par 3, 4, voire 5 personnes.
Néanmoins, c'est quand ils se mettent à écrire seuls que Feydeau rencontre le grand succès. Il a déjà eu des succès, mais qu'il rencontre vraiment le triomphe, ça, ce sont des pièces qui sont écrites de sa main.
Oui, il est parfaitement écrit et parfaitement capable d'écrire tout seul, mais je le soupçonne de s'ennuyer un petit peu, et il préfère sans doute s'amuser un petit peu avec un collaborateur, ils échangent des plaisanteries, etc. C'est plus agréable pour lui, disons.
C'est le côté bon vivant de Feydeau qui devient bientôt un côté viveur et qui finira par l'aspect noceur par lequel j'ai ouvert cette émission, puisqu'à la fin de sa vie, enfin à la fin avant de tomber vraiment malade, on peut dire qu'il mène une vie de bâton de chaise, qu'il se lève à 14 ou 15 heures, qu'il se couche à 5 ou 6 heures du matin, après avoir traîné dans tous les bars, dans tous les rades.
C'est vrai ce que vous dites, mais il faudrait s'abstenir de le voir comme un véritable noceur, c'est-à-dire comme un alcoolique.
Attention,
vous avez eu raison de dire que chez Maxime, il ne buvait jamais d'alcool. Et j'ai eu l'aide de lui qu'il a écrite à sa femme. Il était à Bordeaux en train de surveiller les répétitions d'une de ses pièces, et il est allé au meilleur restaurant de Bordeaux. Il a eu un supplice épouvantable. Le directeur, croyant lui faire honneur, voulait lui faire goûter ses meilleures bouteilles. Et il était obligé de les... Alors que pour lui, c'était un supplice de boire même un demi-verre de vin.
Vous faites bien de le préciser, c'est très important.
Un octambule. Disons pas un noceur, ça aurait l'air de signifier qu'il passait son temps à boire et à draguer. Absolument pas.
Alors, cela dit, draguer, il l'a fait pas mal.
C'était
un séducteur, d'ailleurs, il était très beau, il faut dire.
Oui, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Mais je dois ajouter quelque chose que je ne savais pas quand j'ai écrit le livre, mais c'est que son goût pour les jeunes garçons n'est pas apparu sur le tard.
Parce que le livre a été écrit en 1991, et c'est une réédition.
C'est ça. Et alors... 15 ans après, j'ai pu avoir des témoignages, mais je n'en ai pas fait état, parce que même, mais il semble ses goûts se soient révélés infiniment plus tôt.
Oui, bien sûr.
Et je pense qu'il était aussi bien porté sur les hommes que sur les femmes. Et même son divorce aurait peut-être bien été
lié
à cela,
toutes ces affaires, bien sûr.
À la fois à cela et puis à son goût du jeu. N'est-ce pas? Il dépensait tout ce qu'il gagnait, notamment au casino de Trouville. Casino, puis il allait dans les tripots, il jouait au poker.
Nous allons très vite redresser cette image et revenir au théâtre avec vous, Henri Gidel.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Oserais-je vous l'avouer, entre le dessert et l'entrée, il m'a fait du pied, du pied, du pied, du pied de cochon truffé. Il m'a fait du pied, du pied, du pied, ah mais quel pied ce pied. Il m'a fait du pied, du pied, du pied, du pied de cochon truffé. Ce n'était que du pied, oui mais quel effet ce cochon m'a fait. Y en a qui parlent d'amour comme ils respirent ou comme ils mentent. Ceux qui ne sont pas faits pour satisfaire plus d'une amante. Moi, mon vicomte est une perle qui me passe à la casserole.
Il m'a fait du pied. Charlotte Grenat sur Europe 1. La chanson est évoquée dans Le fil à la patte.
Mais oui, c'est ça. On parle de cette chanson dans Le fil à la patte. Alors, Le fil à la patte, c'est déjà un fédo très lancé. Son premier succès, ça a été Tailleur pour dames, Henri Gidel.
Oui, son premier succès, et qui a été suivi de tout de même, malheureusement, de pas mal d'échecs. Mm-hmm. Mais.
Là, on est en 86.
Hein, c'est ça. Et justement, peut-être on va y
1886,
venir.
Pour ceux qui nous rejoindraient, 18... puisque nous parlons de Georges Feydeau.
1886, hein. Pas 1886.
Alors, Tailleur pour dames a été longtemps perdu, du reste, on n'a pas. C'est une pièce.
Eh bien, c'est pas qu'on l'avait perdu, mais on ne croyait pas devoir le rejouer.
Oui, c'est ça.
On rejouait La Dame de chez Maxime.
Considérer que c'était une œuvre de jeunesse, en fait. Hein.
Une œuvre de jeunesse qui n'amuserait
comme
personne.
Comme Chat en poche, un peu, d'ailleurs.
Et Chat en poche. Alors, Tailleur pour dames, ça a été le, comment dirais-je, le début d'une résurrection d'un certain nombre de pièces qu'on ne jouait plus, qu'on ne jouait pas du tout, comme Chat en poche, par exemple, comme vous dites.
Grâce à Bernard Murat. Alors,
et donc, heureusement, Bernard Murat a eu l'idée, n'est-ce pas, de reprendre en 1996, c'est-à-dire un siècle après, Tailleur pour dames.
Et Bernard Murat est avec nous au téléphone. Bonjour Bernard Murat.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous nous entendez bien?
Très bien.
Voilà, parce que nous avions un petit problème, mais maintenant je crois qu'on vous entend. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Bernard Murat vous saluait, Henri Gidel.
Eh bien, voilà. Merci. Je le salue de même.
Vous dirigez bien sûr, vous, le théâtre Édouard VII. Ça fait 10 ans d'ailleurs maintenant hein, que
ça
vous êtes...
Ça fait 10 ans le mois dernier. Oui.
Et vous avez un certain nombre de fois mis Feydeau en scène. Vous en avez été l'un de ceux qui ont permis au public de rester en contact avec cette œuvre extraordinaire. Est-ce qu'on met Feydeau en scène comme un autre auteur de théâtre?
Écoutez, je crois que il est un peu fondateur du point de vue de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il est formateur en même temps, je dirais. Il est évident que quand on a monté Feydeau, on peut monter beaucoup de choses après. Et quand on a monté bien, ou de façon réussie vis-à-vis du public, mais moi je sais que j'ai commencé par ça, alors je ne peux que renchérir là-dessus. C'est vrai que 85, Tailleur pour dames, ça a été un travail passionnant. À la fois, vous savez que l'histoire, c'est que Jean Poiret a voulu rajouter...
Oui, Jean Poiret avait mis un peu son grain de sel dans l'histoire.
Voilà, oui, alors c'était très amusant parce que... Enfin, amusant, avec le recul, maintenant, je dis que c'est amusant, pour moi, ça a été des heures d'angoisse.
Oui, bien sûr.
C'est que j'avais affaire à Alain Feydeau, qui était le sosie de son grand-père,
oui.
Un être charmant qui est trop tôt disparu. Il y a
et tout en années. Finesse.
Tout en finesse, merveilleux acteur, et qui m'avait donné les droits alors que c'était ma première mise en scène. Et puis, on fait une lecture, et Jean Poiret est venu, puisque c'était comme un grand frère pour moi, il est venu à cette première lecture, et à la fin de la lecture, il m'a montré sa montre. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il montrait la montre. J'ai dit, j'ai un rendez-vous, il me dit, non, regarde, ça fait 1h10. Donc, c'est pas possible. Tu
ne
peux pas jouer une pièce d'une heure dix.
Il fallait la rallonger un peu.
Il fallait la rallonger un peu. Alors, il a fait ça, et bien évidemment, on avait du mal à avouer à Alain Feydeau qu'on allait toucher au grand
Georges. Oui, évidemment, oh là là.
Bien évidemment. Et en fait, on lui a jamais avoué.
Ah bon?
Il y a eu deux repas où on devait absolument lui dire les choses, et je voyais mon Jean parler, mais.
Et ne jamais venir au sujet.
Et moi, j'étais effaré parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer le jour de la première? Et en fait, Alain Feydeau n'est pas venu le jour de la première, il est venu 4 jours après, je me souviens, c'était un samedi en matinée, et où on avait, c'était miraculeux, il y avait un nombre de jeunes et d'enfants fresque de Sade qui était incroyable. Et je crois que c'est une des représentations qui a le fait plus rire le public. Et il s'est bien aperçu qu'il y avait trois quarts d'heure de plus.
Et tout a été coulé dans le rire, en quelque sorte.
Et tout pris dans le rire. Et Alain est venu dans les loges, il a félicité tout le monde. Et nous n'avons jamais parlé de ça.
Il faut dire que le talent de Jean Poiret, et puisque c'est l'occasion de le dire aussi, c'était quelque chose de phénoménal également. Il y avait la même grâce chez Poiret, évidemment. Bernard Murat, moi je me rappelle évidemment votre mise en scène à Marigny de La Dame de chez Maxime, qui était tout à fait extraordinaire, avec Marianne Chazelle notamment, Christian Clavier, etc. C'était un moment extraordinaire.
C'est un très beau souvenir aussi, c'est 92 je crois.
On aimerait partager ces souvenirs plus longtemps, mais malheureusement la liaison téléphonique est vraiment très mauvaise et on me fait donc signe que malheureusement on ne va pas pouvoir continuer. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait ce clin d'œil et je rappelle qu'en ce moment même, la pièce que vous avez mise en scène, Le Prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière est jouée en ce moment donc jusqu'au 11 juin, c'est évidemment à Édouard VII. Merci beaucoup. À bientôt Bernard Murat.
Au revoir Bernard.
Oui, nous, on avait du mal à entendre Bernard Murat. C'est assez extraordinaire ces pièces qui étaient très courtes du reste parce qu'on en jouait plusieurs au 19e siècle dans la même soirée.
Oui, mais justement, il faut le dire ça à nos auditeurs qui peut-être pas peut-être les plus âgés d'entre nous se rappellent que même à la Comédie-Française, il y avait toujours enlevé de rideau. En un acte, hein. On jouait souvent, par exemple, un Musset, chose comme ça, quoi. Avant la grande pièce.
Avant la grande pièce. C'est un entracte de plus, en fait.
Dites-moi, au fait, c'est comme au cinéma. Je me souviens de l'époque où on n'avait pas seulement un grand film, mais on avait aussi un documentaire, un petit film comme ça. Et, en tout cas, au 19e, on jouait facilement, on jouait parfois quatre pièces en un acte, ou une pièce en trois. Et deux en un, etc.
Sûr.
Et ça n'est que récemment.
Assez récemment, après la Seconde Guerre mondiale, et même plus récemment que ça.
Plus récemment
encore,
qu'on s'est mis, est-ce pour des raisons économiques, je le soupçonne un peu.
Oui, et de lisibilité du spectacle aussi.
Oui,
on aime bien
et
pouvoir
alors,
identifier
les spectacles sont beaucoup plus courts maintenant que jadis, ou naguère.
Nous allons revenir dans un instant sur les grands succès qu'ont été, évidemment, La Dame de chez Maxime, La Puce à l'oreille, etc. En votre compagnie.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et c'est celle de Georges Feydeau qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1, Franck.
Et Georges Feydeau et ses personnages, alors j'ai cité déjà deux ou trois fois la môme crevette tout à l'heure. Il faut qu'on vienne sur ce qui est sans doute le chef-d'œuvre de Feydeau, c'est-à-dire La Dame de chez Maxime. Pièce totale, dites-vous, hein. Il n'y a pas seulement...
Oui, absolument, c'est un petit peu comme le soulier de satin
c'est
chez Claudel.
Ça dure très longtemps, presque 4 heures.
Ah ben c'est la pièce la plus importante, celle qui a eu le plus de succès, celle qui est connue, à l'étranger d'une manière incroyable. Moi, une fois, j'étais professeur aux États-Unis et il y avait un certain nombre de délégués de divers pays. Et quand mon tour est arrivé, le président de l'université, you are French. Et immédiatement, il a levé la jambe.
Et elle est donc, c'est pas mon père.
pour lui, un Français, c'était un type de la dame de chez Maxime.
Je citais Marianne Chazelle tout à l'heure que nous saluons chaleureusement. C'est elle qui incarnait la môme crevette.
Cela dit, moi j'aime bien le Dindon, par exemple.
Ah oui,
on peut préférer certaines autres pièces, comme moi personnellement j'aime beaucoup le Dindon, j'aime beaucoup
le
la puce à l'oreille.
Le Dindon a une très grande unité. Hein,
c'est ça,
une pièce très grande efficacité.
La Dame chez Maxime, c'est peut-être un peu long. Un peu
ça s'en va dans tous les sens un peu, oui.
Oui, c'est
il y a
ça.
Ce long acte en province,
c'est ça.
Avec, ça c'est de la satire sociale qui est un peu long.
À nos yeux, c'est un peu long. Tandis que pour le Dindon, il y a un fil à la patte ou la puce à l'oreille, il n'y a aucun temps mort, n'est-ce pas?
La puce à l'oreille aurait pu être un immense succès, mais qui a été tué dans l'œuf à la création à cause de la mort de...
Oui, mais ça s'est rejoué ensuite.
Oui, évidemment.
Ça a été réparé.
Mais enfin, pour Feydeau, ça a été un coup dur.
Pour Feydeau, absolument, ça a été un coup dur, parce qu'il comptait beaucoup sur les performances d'un de ses acteurs.
Alors, nous avons parlé à mots couverts, mais assez clairement quand même, Henri Gidel, de ses déboires conjugaux. Et donc, après cette séparation avec sa femme Marianne, qui va conduire d'ailleurs à un divorce, il se met à écrire des pièces qui sont des drames conjugaux, plus court, beaucoup moins fondé sur le comique de situation et beaucoup plus sur... on entre là dans la comédie de mœurs.
Oui.
C'est toute une série, donc il y a On purge bébé, Occupe-toi d'Amélie, enfin tous les...
Oui, Léonie était en avance, il y a cinq pièces que j'appelle des farces conjugales.
C'est ça.
Elles sont uniquement consacrées, ces pièces, aux démêlés conjugaux dans leur côté sordide, et ça peut être considéré comme...
Elles sont très fortes,
comme...
ces pièces, c'est très, très belle. Fort. Le texte est peut-être encore plus beau, du reste.
Le texte est peut-être encore plus beau, et elles montrent des couples qui se déchirent, qui ne s'entendent pas, et on peut avoir deux lectures. On peut en voir le côté amusant, le côté pittoresque de ces disputes, mais où il n'est pas interdit d'en sortir le côté tragique, la mésentente entre deux époux qui s'installent, et le caractère sordide des querelles qui se nouent.
Et on a l'impression que, peut-être sous l'influence, alors non seulement de sa situation privée, mais aussi de la Première Guerre mondiale, Feydeau se modernise d'un coup. Les sujets qu'il aborde sont sans doute plus proches de nos préoccupations. La façon de les aborder est moderne. Il y a peu de comédiens. Il y a souvent un grand acte. On a des pièces qui ressemblent davantage à notre théâtre contemporain.
C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que vous savez, en fait, il avait écrit une quantité de vaudeville. Il en avait un petit peu assez.
C'est ça.
C'est-à-dire que ça, c'est peut-être pas tellement pour faire plus moderne. C'est peut-être pour parce qu'il avait envie de faire autre chose, parce qu'il en avait assez de faire toujours les mêmes structures, les mêmes choses. Il a profité pour un petit peu pour vider son sac, et il est bien évident que ces querelles conjugales, ce sont en partie les siennes.
Bien sûr.
Et il y a pas mal de mots dans ces querelles, il y a pas mal de souvenirs des époques querelles qu'il avait avec Marianne.
Il y a même
une
pièce totalement autobiographique, mais que finalement il ne donnera pas au public, mais qui est dans laquelle on pourrait retrouver exactement son histoire, en fait, dans les tout derniers textes.
Mais alors, de ce côté-là, c'est trop...
Il préfère le garder par devers lui.
Il préfère le garder pour lui, oui, absolument.
Il tombe malade, encore très jeune, en fait. Hein. Il est atteint de la syphilis, et on voit son esprit commencer à s'égarer, en fait.
On voit son esprit commencer à s'égarer. Et alors, justement, figurez-vous qu'on sait comment il a attrapé la syphilis. Mm-hmm. Figurez-vous que, comme vous l'avez très justement dit, lorsqu'il était au Thermidus Saint-Lazare, qui est actuellement d'ailleurs ce
grand hôtel, le Concorde Saint-Lazare,
Concorde, là, il s'était, comment dirais-je, il s'est spécialisé dans les petits groupes
les liftiers.
Et alors, il apprend qu'aux Folies Bergères, ou je ne sais où, au Casino de Paris, il y avait une espèce de revue qui mettait en scène une vingtaine de petits groupes qui jouaient une espèce
avec
de ballet.
Avec des boutons dorés.
Alors, immédiatement, son sang ne fait qu'un tour, il y court, et il aperçoit un des groupes qui lui plaisait particulièrement. Il se fait connaître, et malheureusement, mais il se trouve que ce n'est pas un garçon, c'était une jeune fille qui en remplaçait.
Au milieu des 20 garçons, il y avait une
fille,
danseuse.
L'équivoque de ses goûts. Et il tombe sur la jeune fille, il dit tant pis, c'est une fille, c'est rien. Il aurait mieux fait de s'abstenir, parce que c'est elle qui lui a communiquer la syphilis, il devait mourir.
Il va mourir dans une maison de repos de Rueil-Malmaison. Il reçoit d'ailleurs un journaliste que son fils lui amène, parce qu'en fait on essaie de continuer à l'entretenir dans son passé, dans ce qu'il a été, etc. On essaie de tout simplement de lui présenter un peu de variété. Et ce journaliste se présente et il lui parle, parce qu'on est en 1919, de la fameuse affaire Corneille-Molière, qui est, vous savez, ici un de nos grands sujets. Et alors, très curieuse, dit Feydeau, cette thèse de Pierre-Louis qui prétend que les chefs-d'œuvre de Molière seraient de Corneille. Et elle ne vous a pas convaincu, demande le journaliste. Oh non, bien sûr. D'ailleurs, où en serions-nous si un écrivain venait demain nous démontrer que les pièces de Corneille sont de Molière? Je trouvais que c'était une petite pierre dans mon jardin et qui était assez bien dans l'esprit de Feydeau. Il meurt dans des circonstances bien tristes, il faut le
bien
dire.
Bien triste. Vous savez qu'il était au sanatorium, il est trouvé en même temps que le président Deschanel. Vous savez, celui qui était descendu...
Oui, le président Deschanel.
Et alors il disait, on se moque de moi, disait Feydeau, parce que je me prends pour Napoléon III, mais regardez le monsieur qui est à côté de moi, il se prend bien pour le président
pour le
de la
président
République.
Le président de la République, en fait. Puisque vous parlez de train, tiens, j'en profite, c'est la toute fin de cette émission, j'en profite en Gidel, pour signaler que notre train littérature, après être passé dans les 12 villes de France qu'il devait visiter, est de retour à Paris. Donc, il est de retour Gare du Nord cet après-midi, où je vais me rendre aussitôt après cette émission
très
d'ailleurs.
Bien, l'occasion pour les
donc, c'est l'occasion pour les auditeurs d'aller voir ceux qui n'ont pas vu cette exposition sur les supports de l'écrit, avec des manuscrits extraordinaires, avec des incunables, avec toutes sortes de trésors nationaux. Ça s'appelle donc le train à vous de lire littérature, et c'est jusqu'à ce soir seulement, donc il faut s'y précipiter. Merci beaucoup Henri Ginel.
Je vous en prie.
Feydeau, dans la série Grande Biographie, c'est chez Flammarion, c'est une très belle réédition. On plonge non seulement dans la vie captivante du personnage, mais dans toute cette époque que vous savez faire si bien revivre. Merci beaucoup. Et nous plongeons dans notre époque, à nous maintenant, avec Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 aujourd'hui, on va parler de l'amour qui vire à l'obsession. Jalousie maladive, possessivité extrême, érotomanie ou même crime passionnel. L'amour sera dans tous ses états pendant une heure. Alors si vous avez subi vous-même les assauts d'un harceleur, si par jalousie vous avez été prêt à tout pour surveiller votre conjoint, si vous souffrez d'érotomanie, comme moi avec Franck, en gros on est persuadé que l'autre qui ne nous aime pas
est
passionné. Au contraire par nous, vous n'hésitez pas à nous contacter au 39 21. On vous attend dès à présent également sur faustine.europe1.fr.
Tout ça est très fatigant. Je parle de nos exercices.
Nous allons vous quitter sur ces belles paroles.
À demain, Franck.